Hey, bonjour tout le monde. Je suis vraiment béni d'être avec vous ce matin. Je vois qu'il y a des beaux petits-enfants qui s'en aillent à l'école du dimanche. Seigneur, bénis-les, Seigneur. Touche-les, remplis-les, Seigneur, de ta présence, qu'ils puissent grandir dans tes voies. Est-ce que c'est votre prière? Amen. Ils sont tellement précieux, hein? Hey. Puis il y a même des grands-parents, j'ai vu ce matin, des grands-parents qui sont ici avec leurs petits-enfants, hein? L'autre côté, j'en ai vu quelques-uns. Et moi, j'aimerais ça que mes petits-enfants seraient ici aussi. Hein? Amen. Bien, écoutez, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce matin. Puis, je peux vous dire, j'ai vraiment passé une belle semaine, une très belle semaine. J'étais vraiment béni d'être avec vous. J'ai eu la chance de rencontrer plusieurs personnes, vraiment. Puis, je vous remercie pour votre hospitalité. Et puis, vous savez, j'ai toujours, je vous ai dit mercredi soir, comment est-ce que les gens dans la région ici, vous êtes des gens qui sont passionnés pour le Seigneur. Vous aimez le Seigneur, puis vous voulez servir le Seigneur. Puis je suis plus convaincu que jamais que vous êtes vraiment des gens qui aiment le Seigneur. Et je veux vraiment vous encourager de continuer dans votre passion, puis de votre détermination à suivre le Seigneur. Puis je veux remercier tout le monde, vraiment, qui continue à servir le Seigneur à l'église de Edmundston, ici, malgré la transition pastorale, malgré la pandémie, que vous êtes là, puis vous continuez de servir tous ceux qui sont impliqués dans différents ministères. Et puis, je vous félicite parce que ce n'est pas toujours facile à travers tout ça. Puis, je veux vous féliciter aussi, puis je veux vous remercier de respecter les consignes qu'on doit suivre. Puis, je ne sais pas pour vous, mais on a hâte que ça soit passé. Y a-t-il des gens qui ont hâte que ça soit passé? Hein? On a vraiment hâte. Le Seigneur, il est sur le trône, il n'a pas changé. Et puis, il faut qu'on garde nos yeux sur le Seigneur et qu'on ne perde pas courage. Puis, je sais que vous avez des bons prédicateurs qui viennent vous apporter la parole. Et j'écoute occasionnellement les prédications qui sont sur votre site web. Puis, je remercie le Seigneur vraiment pour tous les bons messages que vous recevez. Puis, c'est sa parole. Puis, je vous encourage de la recevoir. Puis, pour être bien nourri dans parole de Dieu. Puis c'est vrai que ce matin, on aurait aimé de remercier le pasteur Gagnon et Mme Lina. Et je parlais justement hier avec Mme Lina, puis le pasteur Gagnon, il avait fait une chute de pression, c'est ça qu'elle me disait. Là, puis, et on ne savait pas s'il allait être ici ce matin, mais c'est vraiment ces deux membres de l'Église ici qui ont été une grande bénédiction pour l'Église ici, hein, même qui ont été pasteurs pendant plusieurs années. Vraiment, là, c'est des serviteurs de Dieu. Puis je peux vous dire aussi qu'ils ont été une bénédiction pour le district des Maritimes. On a été bénis de les recevoir. Même le pasteur Gagnon, plusieurs années passées, nous a partagé la parole au ministère francophone. Et puis, on a été puiser son expérience, puis sa sagesse de toutes les années qu'il y avait de ministère, puis il nous a bénis, les pasteurs français, à plusieurs reprises. Et Madame Lina, elle nous racontait des histoires. Hein? Je suis sûr qu'elle vous en a raconté des histoires au début de sa vie chrétienne, là, comment est-ce que c'était, puis c'était pas facile. Puis je pense que pour vous, puis je sais que nous aussi, ça nous a inspiré vraiment de tenir ferme puis de persévérer dans le Seigneur. Puis mon épouse Valérie, elle me disait hier, elle dit, « Tu diras, tu feras sûr de dire à Mme Lina comment est-ce qu'elle m'a béni à plusieurs reprises. » Et Mme Lina, vous savez, elle ressemble à ma belle-mère. La femme de mon père, parce que ma mère, elle est décédée quand j'étais jeune, mais elle ressemble à ma belle-mère physiquement et dans sa personnalité. Hein? On a toute une personnalité, hein? Puis Mme Lina en a une. Hein? Elle ressemble tellement à ma belle-mère que quand on la rencontrait, souvent, on avait l'impression qu'on visitait Roland, qui était. Puis ça nous bénissait parce qu'on n'avait pas la chance de la voir souvent. Et puis, ces histoires vraiment nous ont encouragés de plusieurs façons. Et je sais qu'après le service, Yolande allait aller lui porter une carte et puis des fleurs aussi, un cadeau. Fait que, c'est bien de reconnaître les ouvriers. Puis on prie que le Seigneur puisse les bénir abondamment dans leur déménagement. Et amen! Bien, ce matin, c'est mon tour de vous partager la parole de Dieu. Puis je vais vous dire honnêtement, oui, j'ai passé une très belle semaine. Puis Dieu voulant, j'aimerais ça de revenir, tu sais. Mais je ne sais pas quand, c'est entre les mains de Dieu, mais ça me ferait vraiment plaisir. Puis j'aime de vous connaître. Pour moi, c'est pas facile d'être pasteur à distance. Tu sais, j'aime bien mieux voir les gens. Puis ça fait que, Dieu voulant, j'espère que je vais pouvoir revenir. Le titre du message que j'aimerais de vous partager ce matin, ça s'appelle « Afin qu'ils soient un ». Et on va prier ensemble. Seigneur, je prie ce matin, Seigneur, que par ton esprit, Seigneur, tu puisses parler à chacun de nos cœurs aujourd'hui. Seigneur, merci pour l'amour que tu as pour nous, que l'amour que tu as pour ton Église aussi, pour ton peuple, Seigneur. Merci que tu veux, Seigneur, nous faire du bien, puis tu veux faire du bien à travers de nous aussi, Seigneur. Dans notre communauté, Seigneur, là où ce que tu nous as placés. Et je prie ce matin que par ton esprit, tu parles à chacun de nos cœurs, Seigneur. Que tu nous parles, Seigneur Dieu, afin que nous puissions bien discerner ta volonté, Seigneur Dieu, et que nous puissions marcher dans ta volonté et marcher ensemble, Seigneur, pour être l'Église, être le corps que tu veux qu'on soit pour toi ici dans cette région. C'est ma prière, Seigneur. Bénis chacun et chacune et glorifie-toi dans ton Église à Edmundston. De plus en plus, c'est ma prière, Seigneur. Et aide-moi à partager ce message comme tu voudrais que je le partage, pour ta gloire et pour ton honneur et pour l'avancement de ton royaume. Je te le demande, Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Amen. J'ai une question pour vous ce matin. Si j'étais un entraîneur d'une équipe de hockey ou de soccer ou un autre sport, là, votre sport favori, okay, et que je vous demanderais de me donner des conseils pour savoir comment est-ce que je peux vaincre l'équipe adverse qui est plus puissante que moi, c'est qui est plus puissante que mon équipe. Je vous demanderais, là, quel conseil me donneriez-vous, hein, si je serais un entraîneur pour que je puisse gagner? Je vous pose la question, là. Je vais vous faire travailler un petit peu ce matin. OK, là? Oui, Mike? Travailler en équipe, certainement. OK. Quoi d'autre? Se faire confiance. Oui, certainement. Quoi d'autre? Amen. Être règle, puis dans l'exécution, dans les règles. OK. Une autre personne. Garder le focus. Amen. Certainement, certainement. OK. Ben, vous savez, je pense que c'est ça, toutes les choses que vous avez dit, c'est bien, puis vous me diriez, connais bien ton adversaire, hein? Connais ses points forts, puis connais ses points faibles. Hein? Puis peut-être que vous me diriez, capitalise sur ses points faibles. Hein? Vous me diriez, fortifie-toi, entraîne-toi bien, hein? Prépare-toi bien, développe une bonne stratégie, tu sais. Et puis, selon tes forces, améliore-toi dans tes faiblesses, hein? Encourage ton équipe, garde un bon esprit d'équipe, hein? Et protège l'unité dans ton équipe. Hein? Mais là, je vais vous poser une autre question. Hein? Si vous seriez un conseiller qui ne s'inquiète pas de respecter les règles du jeu, qui se soucie là, seulement de gagner, juste la victoire, en Acadie, on est, tu ne cares pas, là. Tu sais, si tu, hein? Quel conseil vous me donneriez si là, vous ne vous soucieriez pas de suivre les règles? Quel conseil vous pensez que vous pourriez me donner? Est-ce que, je vais vous aider. Est-ce que vous pensez que vous pourriez me dire, essaye de créer la discorde dans l'équipe adverse. Essaye de créer la dissension, la division. Essaye de les inciter à se battre les uns les autres. Essaye de briser l'esprit d'équipe et d'unité dans l'autre équipe. Et même s'ils sont plus forts que toi, tu vas avoir des bonnes chances de les vaincre. Pensez-vous qu'un consultant là, hein, qui ne se soucie pas de respecter les règles, qui donnerait ce conseil? Je pense que oui. Je pense que oui. Et je pense qu'en politique, malheureusement, en politique, c'est un conseil qui est souvent donné. Puis qui est suivi aussi. Parce que nous savons tous qu'une équipe, une organisation, un groupe de personnes qui est divisé à l'interne est très affaibli dans sa force, dans ce qu'il peut accomplir. La Bible nous dit qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut subsister. Hein? Et dans les dernières élections, vraiment, vous savez, le Parti vert, hein, il n'a pas bien fait aux dernières élections. Et une des raisons, c'est parce que le parti était divisé à l'interne. Et je vous partage ce message ce matin, vous savez, parce que je crois que nous devons être très vigilants dans les temps que nous vivons pour discerner les tactiques, les stratégies de notre adversaire qui recherche le mal pour notre monde et qui oppose l'avancement du royaume de Dieu sur notre planète. Et la tactique, vous savez, la tactique du malin de créer la discorde, de créer le manque d'unité, la dissension pour détruire, pour minimiser l'efficacité d'une organisation quelconque, vraiment, ça s'applique dans tous les domaines. Que ce soit, vous savez, pour détruire les mariages qui peuvent bâtir des familles fortes, qui vont produire des villes et des villages en santé et prospères, vous savez. Le diable essaie de détruire les familles, hein? Que ce soit pour détruire les familles des organisations de bienfaisance, hein? C'est une tactique, vous savez, de la dissension pour détruire, et particulièrement, vous savez, c'est une tactique qu'il faut faire attention, particulièrement parce que l'ennemi veut détruire les églises qui confessent le nom de Jésus-Christ. C'est une stratégie qui peut être très efficace du malin et de tous ceux qui ont des intentions mauvaises. Et malheureusement, nous voyons beaucoup de dissensions, de discordes, de tensions dans notre société aujourd'hui. Êtes-vous avec moi? Hein? Et c'est important que nous reconnaissions cette tactique pour ne pas tomber dans le piège de notre adversaire. Et cette tactique vise particulièrement le peuple de Dieu afin de détruire, de réduire son efficacité dans notre monde pour apporter la lumière, la bonne nouvelle du salut de Jésus-Christ dans notre monde. Et aujourd'hui, c'est pourquoi je veux vous parler de l'importance de l'unité. Parce que c'est vrai que l'union fait la force. Et je veux vous parler de l'importance de rechercher toujours à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et je veux vous parler ce matin, il y a trois choses que je veux voir avec vous. Je veux voir on va regarder la prière de Jésus concernant l'unité. On va regarder aussi ensemble à quoi ça ressemble, l'unité dans l'Église parmi le peuple de Dieu. Et ensuite, je vais voir comment est-ce qu'on peut se protéger contre un manque d'unité dans l'Église. Vous êtes avec moi? Amen. OK, dans Jean, le chapitre 17, si vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner dans Jean, le chapitre 17. Et ça fonctionnait tout à l'heure. Et on dirait que ça fonctionnait vraiment bien tout à l'heure. Est-ce que c'est possible de... OK. J'aimerais vraiment ça que ça fonctionne. Juste mets le curseur dessus. Excusez. Bon. C'est vous, c'est à Beresford, ça arrive aussi de temps en temps. Hein? C'est comme ça partout. Hein? OK. OK. On va essayer de. Est-ce que. C'est... Juste le. OK. Je m'excuse. Ça ne fonctionne pas. OK. Bon, ben. On va continuer. Merci, Seigneur. OK. On va regarder ensemble la. There we go. La prière de Jésus pour l'unité parmi ses disciples. Et dans Jean, oui, dans Jean, le chapitre 17. Hein. Vous savez, Jean, le chapitre 17, l'Évangile. Le chapitre entier, c'est une prière de Jésus. Il prie pour lui-même, il intercède pour ses disciples, puis il prie pour ceux qui vont croire en lui à travers ses disciples. Il prie pour nous autres. Et c'est une des dernières prières que Jésus a priées avant d'aller à la croix, de quitter le monde et retourner vers son Père. Puis dans cette prière-là, Jésus, vraiment, il décrit notre monde présent ici-bas comme, c'est comme un champ de bataille. Hein? C'est l'endroit où ce que la bataille se passe, là. Le combat est livré ici. Et Jésus, il prie que son Père puisse protéger, garder, préserver ses disciples qui vont demeurer dans le monde après son départ. Hein? Il prie pour nous qui sommes ici aujourd'hui. Et il y a une chose particulièrement que Jésus prie dans cette prière-là. Puis j'aimerais qu'on puisse regarder qu'est-ce que Jésus a prié particulièrement. Et on va lire ensemble. OK. Wow! C'est différent ici comment ça fonctionne. Hein? OK. Jean 17 au verset 9. On va commencer là, puis je lis la version Bible Second 21. Jésus dit, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Tout ce qui est à moi, est à toi. Et ce qui est à toi est à moi, et ma gloire est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom, j'ai protégé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu à part le fils de perdition, afin que l'Écriture soit accomplie. Okay. Maintenant, je vais vers toi et je dis ces paroles dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole et le monde les a détestés parce qu'ils ne sont pas du monde. Tout comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde reconnaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Okay. Et maintenant, je vous pose la question. Qu'est-ce que Jésus demande plus que toute autre chose dans cette prière? Afin qu'ils soient un. Il demande que ses disciples soient unis ensemble, dans l'amour, de cœur, qu'ils soient un, vraiment, dans leur foi, dans leur respect, dans leur but, dans leur espérance, comme le Père et le Fils sont un. C'est la prière de Jésus qui revient continuellement dans sa prière. Jésus s'apprêtait à quitter le monde, mais les disciples allaient demeurer dans le monde, et le monde dans lequel ils vivaient, ça n'allait pas être une place facile pour eux. Et Jésus n'a pas prié que le Père les enlève du monde, mais que le Père les protège, qu'il les préserve, qu'il les garde du malin. Et plus que toute autre chose, vraiment, Jésus a prié que ses disciples soient un, qu'ils soient unis comme le Père et le Fils sont un. Et si Jésus a prié ceci, c'est parce qu'il savait que ce serait un défi pour les disciples dans le monde de rester unis. Avec leur personnalité, avec les pressions qu'ils allaient avoir, avec leur faiblesse dans la chair humaine, ça allait être difficile. Êtes-vous avec moi? Jésus a prié ceci, vraiment. Et Jésus, il savait très bien aussi que leur adversaire, le malin, allait essayer de briser l'unité qui allait faire la force de ses disciples dans la mission qu'il leur avait confiée. Et lorsqu'on regarde, vous savez, à l'histoire de l'Église depuis 2000 ans, nous pouvons voir qu'il a réussi, l'ennemi, dans bien des endroits, vous savez, à briser l'unité parmi le peuple de Dieu. Vous savez, je me souviens, lorsque moi j'ai connu le Seigneur, ça fait 38 ans passé, à Chibougamau. C'est un Québécois de racine, mais maintenant je suis plus acadien que Québécois. Mais 38 ans passé, je me souviens, quand j'ai connu le Seigneur, à Chibougamau, il y avait trois petites églises évangéliques. Trois petites églises évangéliques. Puis on ne pouvait rien faire ensemble. On ne pouvait pas travailler ensemble parce qu'on avait tout notre clan, chacun, on avait toutes nos différences. Puis même des fois, malheureusement, il y en a qui parlaient un contre l'autre. Waouh! Tu sais, c'était pas trop beau. Mais heureusement, vous savez, que depuis quelques années, je dirais même depuis quand même plusieurs années, on voit de plus en plus des croyants de différentes dominations travailler ensemble, s'unir ensemble pour le royaume de Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et vous savez, ceci, ça n'empêche pas que le malin, il recherche encore à utiliser cette tactique pour réduire l'efficacité de l'Église du Seigneur Jésus-Christ sur la planète. Et oui, malheureusement, vous savez, et combien, vous savez, partout, combien d'Églises ont été divisées à l'interne pour réduire l'efficacité du royaume de Dieu? Malheureusement. Jésus nous envoie dans le monde aujourd'hui. Nous sommes sa lumière, son équipe, son peuple, son armée. Nous avons un adversaire qui lutte contre nous. Et on ne doit pas être ignorant de ses ruses, de ses stratégies. Et nous devons comprendre que c'est lorsque nous demeurons unis ensemble que nous sommes forts et que nous pouvons avoir un impact pour le salut et le bien de notre monde et faire une différence. Excusez-moi, des fois je viens. Mais la prière de Jésus pour l'unité de ses disciples doit être aussi notre prière. Seigneur, garde-nous dans l'unité. Protège-nous, Seigneur. Préserve-nous, Seigneur. Garde-nous unis dans le monde que nous vivons. Protège-nous de la division, de la dissension, d'un manque d'harmonie. Ça doit être notre prière. Constamment. Et une église qui est unie, c'est une église qui est un témoignage puissant pour la communauté de l'amour de Dieu que les gens peuvent connaître pour eux aussi. Vous êtes avec moi? Amen. OK. À quoi ça ressemble, l'unité dans une église? Je veux voir ça avec vous pour quelques instants. Ça veut-tu dire qu'il faut tous s'habiller de la même façon? Qu'il faut tous avoir le même discours? Avoir toutes les mêmes opinions? Est-ce qu'il y a un moule à gâteau, là, tu sais, qu'il faut qu'on fitte dans le moule à gâteau, là? Est-ce que c'est ça, l'unité dans l'Église? Non. C'est une unité dans la diversité. C'est comme ça que Dieu nous appelle à être unis dans la diversité. Il y a trois choses que je veux voir avec vous ce matin. C'est une unité, vous savez, dans la diversité des ouvriers, premièrement. Dans la diversité des ouvriers. Lorsque l'apôtre Paul a écrit aux Corinthiens, hein, malheureusement, il y avait des divisions dans l'Église de Corinthe. L'ennemi avait utilisé les points faibles, puis les points forts, pour créer la division parmi les croyants dans l'Église. Il y avait de la jalousie, il y avait de l'orgueil, il y avait de la compétition, il y avait toutes sortes d'affaires. Hein. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit, il les a exhortés fortement à rechercher l'unité parmi eux. Puis c'était très important pour la santé et la croissance de l'Église. Et j'aimerais qu'on puisse lire dans 1 Corinthiens, le chapitre 1, on va lire du verset 10 jusqu'au verset 13. Si vous êtes là, vous pouvez suivre. L'apôtre Paul, il dit ceci, il dit, « Je vous supplie, frères et sœurs, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. » Il dit, « En effet, mes frères et sœurs, j'ai appris à votre sujet, par l'entourage de Chloé, qu'il y a des rivalités entre vous. Je veux dire par là que chacun de vous affirme, « Moi, je me rattache à Paul, et moi à Apollos, et moi à Céphas, et moi à Christ. » Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Certaines personnes dans l'église de Corinthe disaient, « Moi, je suis de Paul. Moi, je suis les enseignements de Paul. » D'autres, ils disaient, « Apollos. Moi, c'est Apollos. » Et d'autres, Céphas, Pierre. D'autres, de Christ. Comme si chacun avait son prédicateur favori, son enseignement préféré, sa doctrine préférée, au lieu d'avoir les regards sur la mission que Jésus leur avait confiée, sur leur raison d'être, sur l'objectif commun que Jésus leur avait confié. Chacun avait son prédicateur préféré, sa doctrine préférée. Au lieu d'avoir les regards sur Jésus, sur sa parole, et de recevoir de Dieu à travers chaque prédicateur, l'encouragement, les dons qu'ils apportaient à toute l'Église du Seigneur. Amen. Et un petit peu plus loin, l'apôtre Paul, il dit ceci, dans le chapitre 3, le verset 4, jusqu'au verset 9, il dit, « Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs, par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Paul leur dit, qu'est-ce qu'Apollos? C'est des serviteurs, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Il y en a un qui plante, il y en a un qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Il leur dit, ne faites pas des idoles de ces serviteurs de Dieu au point de créer des divisions parmi vous. Que Dieu soit votre idole, Jésus-Christ, que vous adorez. Gardez vos yeux sur le Seigneur et vous serez unis. C'est ça qu'il entend leur dire. À quoi ça ressemble l'unité dans l'Église? Une Église unie, ça ressemble à plusieurs personnes qui sont en amour avec Jésus, leur Sauveur, leur Seigneur, leur idole, et qui veulent le servir et qui ne font pas d'idole d'aucun prédicateur, mais qui recherchent à voir Jésus et à l'entendre à travers les serviteurs qu'il envoie, en rendant grâce à Dieu pour ses serviteurs et en donnant la gloire à Dieu pour ce qu'il fait. Êtes-vous avec moi? Amen. À quoi ça ressemble, l'unité dans une église? Ça ressemble à l'unité dans la diversité des dons aussi. Lorsque Paul écrit à l'église de Corinthe, et l'église, il y avait beaucoup de difficultés, il y avait beaucoup de... Pour les aider à marcher dans l'unité, à résoudre les problèmes de division, vraiment, il compare l'église à un corps humain. À un corps humain. Et j'aimerais qu'on puisse lire le texte. Je ne suis pas trop habitué, c'est loin, je vous garantis, pour lire. J'aimerais qu'on lise le texte, et vous le connaissez bien le texte, mais je trouve que le texte s'explique vraiment, vraiment bien. Et dans 1 Corinthiens, le chapitre 12, à partir du verset 14, on va lire ceci. Ça dit, « Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? » Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait lui? S'il était tout oui, où serait l'odorat? Okay. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous », mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. On va continuer. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous savez, l'Église, et je ne vous apprends pas quelque chose de nouveau ce matin, je sais que vous avez entendu ça. L'Église, c'est un corps. On a besoin de tous les membres. Dans sa sagesse, vous savez, dans sa sagesse, Dieu nous a, il ne nous a pas donné tous les dons. Et dans sa sagesse, Dieu nous a tous donné des dons qui sont nécessaires à son Église, à son corps, qui agit sur la terre pour apporter la lumière, la vérité, la vie. Nous faisons partie tous de l'équipe du Seigneur. Il n'y a aucun croyant qui ne peut dire, « Moi, je ne suis pas du corps, moi, je n'ai pas de dons, moi, je suis inutile. » Il n'y a aucun croyant qui peut dire ceci. Et il n'y a aucun croyant non, qui peut dire « Je n'ai pas besoin des autres. Ma main a besoin de mon œil. Mon pied a besoin du reste du corps. » Et parce que, vous savez, parce que Dieu, il veut l'unité dans son Église, il veut l'harmonie, il veut l'amour dans sa famille, vous savez, Dieu l'a disposé, hein, le Saint-Esprit, c'est lui qui distribue les dons, et Dieu les a disposés de manière à nous obliger de rester ensemble et de travailler ensemble puis de s'organiser ensemble si on veut faire une différence dans notre monde, si on veut être efficace, afin qu'il n'y ait pas de division au milieu de nous. Puis qu'on ait besoin, qu'on ait soin les uns des autres. Es-tu avec moi ce matin? À quoi ça ressemble une Église qui vit dans l'unité de l'Esprit? Ça ressemble, premièrement, à plusieurs personnes oui, qui sont en amour avec Jésus, leur Seigneur et leurs idoles, et qui ne font pas d'idoles de personne d'autre. Puis ça ressemble aussi à un groupe de personnes différentes, avec des dons différents, qui sont en amour les uns envers les autres, parce qu'ils reconnaissent qu'ils ont besoin les uns les autres. Il n'y a pas de place dans l'Église pour la rivalité, pour de vaines gloires, pour du favoritisme, pour de l'élitisme, pour de la jalousie. Il n'y a pas de place pour ça dans l'Église. Parce qu'on est tous dans, la même équipe. Amen? C'est vraiment important. C'est une unité dans l'harmonie. Il y a différentes notes d'un instrument de musique, mais ça fait une belle musique quand on joue ensemble. C'est comme ça. À quoi ça ressemble? L'unité dans une église, ça ressemble aussi à l'unité dans la diversité d'opinions. Croyez-vous que nous pouvons avoir des opinions différentes sur certaines choses et encore être unis, vivre l'unité de l'esprit? Oui, oui, nous pouvons, absolument. Mais ça demande de la maturité. Ça demande de la maturité dans le Seigneur. Puis je vais vous dire que dans ce temps-ci, ça prend de la maturité dans le Seigneur. Pour garder l'unité de l'Esprit de Dieu au milieu du peuple de Dieu à travers tout ce que nous vivons dans notre monde. Et je dirais, vous savez, lorsqu'il y a de la division, c'est parce qu'il y a un manque de maturité spirituelle. On a besoin de la maturité. Seigneur, aide-nous, nous tous. J'aimerais qu'on puisse lire dans Romains, le chapitre 15, versets 5 à 7. Si vous avez votre Bible. Ça dit ceci, hein? Ça dit que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne de vivre en plein accord les uns avec les autres, comme le veut Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule voix, vous rendiez gloire au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Ici, le contexte, hein, que ici, ça nous parle des opinions personnelles sur des sujets d'ordre secondaire, comme manger de la viande sacrifiée aux idoles, respecter des journées particulières comme le sabbat et les fêtes juives, hein, parce qu'il y avait au milieu du peuple des gens qui mangeaient de la viande, il y en a qui ne mangeaient pas de la viande, tu sais, puis il y en a qui respectaient les journées, puis qui ne respectaient pas les journées. Tu sais. C'était ça qui se passait. Les gens avaient des opinions différentes et Paul a écrit pour les aider à garder l'unité à travers ça. La prière de Paul pour les Romains ici, c'était que le Dieu de la persévérance, du réconfort, de la consolation leur donne de vivre en harmonie, en plein accord, dans l'unité, comme le veut Jésus-Christ. On pourrait dire comme la prière de Jésus en Jean 17. Et la prière de Paul, c'était qu'il ne laisse pas les différents opinions sur des sujets d'ordre secondaire venir briser l'harmonie, l'amour entre eux, l'unité, la communion fraternelle, afin qu'ils puissent ensemble glorifier Dieu et que le monde puisse voir que Jésus était au milieu d'eux. C'était ça, la prière de l'apôtre Paul. Puis comme je disais tout à l'heure, de nos jours, c'est facile d'avoir des opinions différentes. Puis c'est facile de c'est facile de s'ostiner, hein, comme on. Il y a tellement de choses. À quoi ça ressemble une Église unie qui vit dans l'unité de l'Esprit? Ça ressemble à plusieurs personnes qui sont en amour avec Jésus, leur Seigneur, leur idole, qui ne font pas d'idole d'aucune personne. Même ceux qui ont des dons spirituels, non. On en est aux yeux sur le Seigneur. Ça ressemble à un groupe de personnes différentes avec des dons différents qui sont en amour les uns envers les autres, parce qu'ils reconnaissent qu'ils ont besoin les uns des autres. Puis ça ressemble aussi à un groupe de personnes avec des opinions différentes sur des sujets d'ordre secondaire qui se respectent, qui s'aiment les uns les autres, puis qui s'accueillent parce que Jésus les a accueillis aussi. Amen. Je ne suis pas sûr là, si vous êtes avec moi ou pas. Là. Je pense que oui. Là. OK. Amen. OK. Comment pouvons-nous se protéger des dangers de la division? Vous savez, ce que l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit à l'église d'Éphèse, en fait, vous savez, il avait de la difficulté avec l'unité dans presque toutes les églises du Nouveau Testament. C'est pas nouveau, là. C'est pas nouveau, là. C'est pas facile. Mais lorsqu'il écrit à l'église d'Éphèse, vraiment, l'apôtre Paul, il déclare que dans le Seigneur, il n'y a plus de séparation entre un juif et un non-juif. En fait, il parle de l'unité de l'esprit. C'est ça qu'il parle de, vous savez. Et en fait, quelle que soit notre nationalité, quelle que soit notre langue, notre pays d'origine, en Jésus-Christ, nous sommes une seule et unique famille. Amen. Et c'est pour ça que c'est bénissant qu'on voit des gens qui déménagent, qui émigrent au Canada, vous savez, et qu'on est tellement bénis parce que c'est des gens de la grande famille de Dieu qui vient se joindre avec nous autres. On a le même esprit. On est unis. Et la Bible nous dit, on a tous accès auprès du Père dans un même esprit. On n'est plus des étrangers, on est famille de Dieu. Et parce que nous avons le même esprit, le même Seigneur, le même, nous avons aussi le même appel, la même vocation. Et l'apôtre Paul, en Éphésiens 4, On va lire les versets 1 jusqu'au verset 6. Il dit ceci, alors qu'il vient de déclarer l'unité de l'Esprit. Il dit, « Je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. » Amen. Il y a un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur, une seule foi, vous savez. On fait partie de la même équipe. Hein, si nous voulons faire une différence et vaincre notre adversaire qui essaie d'aveugler notre monde à la bonne nouvelle de Jésus-Christ, nous devons travailler, combattre ensemble. Nous devons rechercher à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Nous l'avons déjà, l'unité de l'esprit. Nous avons le même esprit, Dieu nous l'a donné. Il faut le conserver, il faut le protéger. En recherchant, en priant, vous savez, que Dieu garde nos cœurs, en recherchant l'humilité, en rejetant toute pensée orgueilleuse et de vaine gloire qui pourrait venir dans notre cœur, on n'en veut pas de ça, parce que ça détruit. En recherchant, l'apôtre Paul dit, en recherchant la douceur, en recherchant la grâce, la gentillesse, le respect, l'amabilité, en rejetant la haine, la colère, l'irritabilité, on doit rejeter ces choses-là. Il dit, en recherchant la patience, oui, en recherchant la patience, en rejetant les patients, l'impatience, vous savez, on n'est pas parfait, là. À Bresford, il n'y a personne de parfait, mais je pense qu'il y a ici non plus, là. On n'est pas rendu là encore, tu sais. On est en transformation, même quand on accepte le Seigneur, là. On est en transformation, puis on va être en transformation jusqu'à temps qu'on se conseille avec le Seigneur. Puis parce qu'on est en transformation, ben on a des petits coins ici et là, là qui peuvent irriter. On peut s'irriter les uns les autres. Ça arrive, hein? C'est pour ça que c'est important, vous savez, de rechercher la patience, d'être patient les uns envers les autres. L'apôtre Paul, il dit de rechercher, de se supporter dans l'amour aussi. Oui, dans l'amour. La Bible nous dit que l'amour couvre une multitude de péchés aussi. Il faut rechercher l'amour. Il faut rejeter la méchanceté, l'animosité, la calomnie, l'amertume. Il faut qu'on dise non, je n'en veux pas de ça. Je ne veux pas de ça. Et c'est la façon qu'on se protège, vous savez. Et ça prend un effort de notre part. L'apôtre Paul dit, efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit. Ça prend un effort de notre part. Oui, c'est Dieu qui veut le faire par sa grâce qui agit en nous. Mais nous devons être intentionnels de rechercher, de reconnaître le danger, reconnaître nos faiblesses, reconnaître les ruses du diable qui voudraient venir briser la force de l'Église pour être un témoignage dans notre monde. Amen. Oui, c'est la façon qu'on se protège. Cette façon. Et je termine ce matin. Vous savez, le sujet de l'importance de l'unité, ça revient continuellement dans la parole de Dieu. Dans la prière de Jésus, on l'a vu comment Jésus a prié ceci. Dans les lettres de Paul, qui exhorte les églises du Nouveau Testament, vous savez. continuellement. Ce n'est pas une chose facile de marcher dans l'unité. Et je veux vous dire, qu'est-ce que je vous partage ce matin-là? Je partage aussi à l'église de Beresford aussi, là. Nous autres aussi, on a besoin, vous savez, on a besoin de se protéger, on a besoin de faire attention, vraiment, à discerner les ruses de l'ennemi qui voudrait mieux briser le témoignage et la puissance de l'Église. Oui, c'est important, vous savez. Il y a quelqu'un qui disait, un grain de dynamite, non, ça peut pas déplacer une montagne, mais plusieurs ensemble, ça peut faire exploser une montagne. Puis c'est comme ça avec l'Église aussi, vous savez. Une Église qui marche ensemble est beaucoup plus puissante. Dieu veut nous utiliser dans notre monde pour partager la bonne nouvelle en Jésus, afin que le monde croie que Jésus est celui que Dieu a envoyé pour qu'il puisse avoir la vie, pour qu'il puisse connaître l'amour du Père, partager la gloire de Jésus. Amen. C'est la prière de Jésus afin qu'on soit un, afin que le monde croie. Et je veux que ma famille connaisse le Seigneur Jésus-Christ. Je veux que mes enfants, mes petits-enfants, vous savez, connaissent le Seigneur Jésus-Christ. Et je suis certain que vous aussi, c'est votre désir, c'est votre prière. Nos familles, nos enfants, nos petits-enfants qui sont à l'église maintenant, il y en a qui sont à l'église maintenant, on veut qu'ils grandissent dans une église pour qu'à un moment donné... ça va être eux autres qui vont prendre la relève. Ils vont continuer à porter le flambeau. Et pour que nos petits-enfants, vous savez, qui continuent à servir le Seigneur, ils ont besoin de grandir dans une église où ils voient l'amour de Dieu les uns envers les autres. C'est important. Vous savez, c'est important, puis je dirais, vous savez, c'est plus important, vous savez, l'unité au milieu du corps de Christ, c'est plus important que ma petite frustration avec un ou avec l'autre, comme mes petits caprices avec un ou avec l'autre. C'est vrai. C'est important, vous savez, si on veut être l'Église du Seigneur. Et vous savez, j'ai le sentiment, vous savez, avec tout ce que nous vivons, vous savez, sur la planète, vraiment, là, c'est pas... C'est plus, je sais que vous vivez sur la même planète que moi, là. Hein? Wow! Depuis 20 mois, là, on n'aurait pas cru qu'on aurait en train de vivre qu'est-ce qu'on est en train de vivre présentement, là. T'sais. Mais j'ai le sentiment, vous savez, puis... que nous sommes en train de se diriger vers l'Église des Actes des Apôtres dans le Nouveau Testament. J'ai le sentiment que le Seigneur, malgré tout ce qui se passe, le Seigneur, il travaille. Puis il a dit qu'il bâtirait son Église, puis il va la bâtir, son Église. Puis il n'y a personne qui va l'arrêter de bâtir son Église. Non. Ça, c'est certain, on peut être assuré. On sait qui a la victoire. Amen. On peut marcher avec assurance parce qu'on sait qui a le dernier mot. Et je crois vraiment que, personnellement, je crois que Dieu, il fait des changements, puis on n'a pas fini d'en voir des changements dans l'Église. Et je crois, vous savez, que nous allons voir aussi une multitude de personnes venir à la foi en Jésus-Christ. On va voir une multitude de personnes. Il y a des gens qui vont commencer à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Puis qu'est-ce qui se passe, vous savez? Puis qui vont commencer à chercher Dieu parce que ça va être la seule place qui va avoir une seule espérance. Je crois que nous allons voir ça. Je crois que nous allons aussi voir le retour des signes et des prodiges pour confirmer la parole de Jésus comme étant la parole de vérité. Je crois que nous allons le voir. Je crois que nous allons voir aussi la présence accrue du Saint-Esprit, la manifestation de la puissance de Dieu au milieu du peuple de Dieu. Je crois aussi que nous allons voir une opposition accrue, augmentée à la vérité de la parole de Dieu. On le voit déjà. Mais je crois que ça va. Je crois qu'on va voir une augmentation de la persécution aussi envers les croyants en Jésus-Christ. Que nous allons voir aussi l'augmentation de l'intensité du combat spirituel. Vous savez, lorsque Dieu agit, oui, le diable, il ne laisse pas aller facilement. Et je crois que Dieu il se prépare à manifester sa gloire pour qu'on puisse voir sa gloire. Mais si nous voulons faire partie de ce réveil, nous avons besoin de faire de l'unité dans son Église une priorité. On a besoin de faire de l'unité une priorité. Et l'Église du Nouveau Testament était puissante et efficace dans son témoignage lorsqu'elle était unie. Et dans Actes, je termine ici avec ce passage-là, Actes 4, 32, 33, il dit « La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. » Qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Alléluia. Si nous voulons voir la gloire de Dieu manifestée à travers de nous, vous savez, nous devons être vigilants pour ne pas laisser notre ennemi, le malin, semer la discorde dans la maison de Dieu. Et on doit rechercher de tout notre cœur à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et il faut qu'on soit déterminé à mettre dehors tout ce qui brise l'unité parmi le peuple de Dieu. Puis ça commence dans notre cœur. Ça commence pas avec un ou l'autre, mais ça commence avec nous autres même, dans notre cœur. On veut mettre dehors tout ce qui est. Qu'est-ce qui vient briser ou entraver ou réduire l'unité dans l'Église de Dieu? Et toi avec moi ce matin? Moi, je veux voir la gloire de Dieu. Puis je veux voir la gloire de Dieu à travers l'Église du Seigneur. Je veux le voir de plus en plus. Puis à Edmundston, je vous dirais... Je vais vous le dire, plein. Qu'est-ce que je pense? OK, je vais vous le dire. Quand l'Église de Edmundston va être unie ensemble dans l'unité de l'Esprit de Dieu, avec la ferveur que vous avez dans cette église ici, pour servir le Seigneur, il y en a beaucoup. Vous allez être une église puissante pour le Seigneur Jésus-Christ dans votre région. Mais il faut que l'église soit unie. Et probablement qu'une raison pourquoi est-ce que le diable travaille fort, c'est parce qu'il sait que cette église-ci, elle peut faire toute une différence pour le royaume de Dieu. Et je vous encourage, frères et sœurs, de rechercher l'unité de l'esprit plus que toute autre chose et de mettre dehors, d'être aussi déterminé pour mettre dehors tout ce qui cause, tout ce qui pourrait causer la discorde et la division dans l'église. Tout ce qu'il y a dans votre cœur, tout ce qu'il y a, dites non, Seigneur, on ne veut rien parce qu'on veut être unis pour voir ta gloire. Est-ce qu'on pourrait se lever debout ensemble? Puis les gens dans l'autre salle aussi. Et j'aimerais ce matin, je vais inviter Frank de revenir. J'aimerais qu'on pourrait prier ensemble ce matin. Je pourrais juste jouer doucement, Frank. Je dois penser à toi, Mike, je ne sais pas là. Mais j'aimerais ce matin qu'on puisse prier ensemble. Que le Seigneur nous protège de la division. Que le Seigneur nous donne la détermination de mettre dehors tout ce qui cause, pourrait causer la division. Tout ce qu'il y a dans notre cœur, dans mon cœur, qui pourrait contribuer à la division et à la discorde avec vous. Je prie. Et je vais vous demander de prier. Je vais vous demander. Il y a des gens que vous avez à cœur de prier ce matin. Il n'y a pas juste moi qui va prier. Puis si c'est votre prière, ce matin, Seigneur, unis-nous, tu es dans ton esprit. Puis mets dehors tout ce qui a besoin d'être mis dehors. Je vais vous inviter, avec moi, de lever vos mains comme un signe. Comme un signe, Seigneur, oui, Seigneur, viens, Seigneur. Glorifie-toi dans ton Église, Seigneur. Agis dans mon cœur, agis dans notre Église. Si vous êtes confortable, merci pour ton amour pour nous, Seigneur, pour ta grâce, ta miséricorde, ton pardon. Et merci pour la famille, Seigneur, la famille de Dieu que tu nous as donnée, Seigneur. Oui, Seigneur, oui, nous sommes unis, Seigneur, comme nous avons le même esprit, Seigneur. Nous sommes tes enfants, nous sommes tes frères et tes sœurs. Nous sommes des couvriers dans la moisson, Seigneur. Merci, Seigneur. Je prie, Seigneur. Oui, je prie que tu nous aides, Seigneur, à conserver cette unité de l'esprit par le lien de la paix, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à nous aimer les uns les autres, Seigneur, comme tu nous as aimés, Seigneur. Aide-nous à nous pardonner les uns les autres comme tu nous as pardonné, Seigneur Dieu. Aide-nous à nous apprécier, Seigneur, les uns les autres, Seigneur. À nous accueillir les uns les autres comme tu nous accueilles, Seigneur. Qu'on soit un, Seigneur. Qu'on soit un, Seigneur. Oui, Seigneur, comme tu as prié, Seigneur Jésus. Que l'on soit un, Seigneur, unis dans le même cœur. Aide-nous d'apprécier, Seigneur Dieu, les dons, Seigneur Dieu, que tu as placés dans chacun et chacune, Seigneur Dieu. Aide-nous de réaliser, Seigneur, que nous ne sommes pas complets, Seigneur Dieu. Par nous-mêmes, on a besoin les uns et les autres, Seigneur. Aide-nous de voir les bonnes choses, Seigneur Dieu, les bénédictions dans la vie de mon frère et de ma sœur, Seigneur. On peut s'apprécier, s'encourager, se supporter. Aide-nous d'être patients les uns envers les autres, Seigneur Dieu. Comme tu es patient avec nous, Seigneur. Aide-nous d'agir avec douceur, Seigneur Dieu, les uns envers les autres, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Dieu, de marcher humblement, Seigneur, devant toi et les uns envers les autres aussi, Seigneur. Aide-nous de voir, Seigneur Dieu, comment, Seigneur Dieu, nous avons besoin, Seigneur, les uns des autres. Je te remercie, Seigneur Dieu, pour le désir et la passion, Seigneur, que tu mets dans le cœur de cette Église de faire une différence, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que tu nous aides, que tu nous aides à réaliser que c'est ensemble, Seigneur, c'est ensemble, Seigneur Dieu, que nous allons faire une différence, que le monde va voir, Seigneur, que tu nous as envoyé, que tu es venu dans le monde pour ça. Je prie, Seigneur. Je prie, Seigneur Dieu, s'il y a des endroits où il y a des relations qui ont été tendues, Seigneur, ou quoi que ce soit que tu entreprennes pour guérir, Seigneur. Guérir les relations, Seigneur. Viens, Seigneur. Je prie, Seigneur Dieu, que tu nous aides à discerner les ruses du malin, Seigneur Dieu, lorsqu'il vient, Seigneur Dieu, d'une manière ou d'une autre, Seigneur. Il vient, Seigneur Dieu, souffler à notre esprit, à nos pensées, Seigneur, des choses, Seigneur, qui briserait l'unité, qui créerait la division. Aide-nous à le discerner, Seigneur Dieu, à discerner les ruses de notre adversaire, Seigneur, qui voudrait affaiblir notre témoignage. Aide-nous, Seigneur. Je prie, Seigneur Dieu. Je te prie, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur. bénis ton peuple, Seigneur. Aide-nous à réaliser l'importance, Seigneur, de marcher ensemble, Seigneur. C'est ma prière, Seigneur. C'est ma prière, Seigneur, pour ton Église, pour ton peuple, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus.